ToraBox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un enseignement de
Madame Vanessa Benzaken.
Bonne écoute et bon limoud.
Cet assainissement d'Eric Shehashma, de tous ses sentiments de culpabilité diffus, il est obligatoire et indispensable pour réussir à progresser. Pour réussir, pour, on va dire, réhabiliter ce que j'appelle l'image personnelle qui est endommagée. Alors, regardez maintenant, on va voir en exemple. On va voir en exemple au niveau du chinuch. Puisque tout ce que je viens de dire maintenant, on l'a dit pour nous-mêmes, parce qu'on commence à se construire nous pour construire l'enfant, mais il est évident que ça va rejaillir sur l'enfant positivement quand nous, on aura avancé dans ce domaine. Je vais prendre un exemple très classique que le Rav Yaakovson y donne sur, comment je vais appeler ça, la gestion des échecs répétés de l'enfant dans certains domaines. La gestion adéquate, et on va mettre en exergue les écueils classiques. Alors je vous raconte une petite histoire qui raconte le Rav, qui est très connue, sur la notion du mensonge. Alors, il raconte comme ça qu'un Mélamed de Mechina, quel âge c'est ? 5 ans ? Un Mélamed de Kita de 5 ans à peu près ? Il racontait un jour une petite histoire en classe sur la notion de l'importance, de la vérité, de la gravité du mensonge, etc. Il a raconté l'histoire de Olu Olu. Vous savez, cette histoire, il dit que c'est de la Gemara. Moi, je l'avais entendue dans d'autres sources, mais c'est de la Gemara apparemment. Et que la punition du menteur, c'est que quand il dit la vérité, on ne le croit plus. Bon, c'est le grand classique que tout le monde connaît. Et alors, le Mélamed, il a raconté ça avec beaucoup d'emphase et tout ça. Et les enfants, ils écoutaient d'une petite oreille. Mais il y avait un, de 5 ans donc, qui était tout ouï. Il avait les deux oreilles ouvertes, il écoutait comme ça, et il était mamache très captivé. Alors le Mélamed, il était content. Il dit, pour une fois qu'il y en a un qui suit un petit peu ce qu'on raconte. Il était tout content. Mais sa joie s'est transformée en désolation. Lorsque d'un coup, ce petit-là, qui écoutait très, très captivé, il explose en pleurs. Alors, c'était la fin, c'était envers la Hafsaka, avant la récréation. Donc, le Mélamed a congédié les camarades d'aller jouer, et il est resté avec lui. Et regardez l'échange. Il lui a dit, mais pourquoi tu pleures ? Il était tout blanc, tout livide, le petit. Et l'enfant, il lui répond, parce que je suis un menteur, je ne pourrais pas voir la Shrina, Hachem me hait. Mais explique-toi, tu mens beaucoup ? Je ne sais pas. Extraordinaire. Il ne sait pas. Il sait qu'il est un menteur, mais il ne sait pas Tachlès, il ment beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire. Mais le Mélamed, il lui dit, bah alors pas de problème, arrête de mentir et tu ne seras plus un menteur. Ce qu'on a vu juste avant, si vous faites attention, c'est exactement la même problématique. Et qu'est-ce qu'il répond ? Mais je ne peux pas, puisque je suis un menteur. Simoulev, dans cette petite histoire, il y a toute cette problématique que je vous ai développée avant. Lorsque l'image personnelle, elle est entachée, lorsque sur l'image personnelle est imprimé menteur, l'enfant, d'abord, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Nous, encore adultes, on a des kélim intellectuels pour comprendre ce qu'on raconte. Mais l'enfant, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il sait juste, une chose est sûre, une information a été imprimée sur son tadmit, sur son image personnelle, qu'il est un menteur. Il ne sait pas ce que ça implique. Quand on lui donne la solution, fais tu vois ? Comme j'ai dit avant, ouais. Arrête de mentir et tu ne seras plus un menteur. Il dit, mais je ne peux pas, puisque je suis un menteur. Comme j'ai dit avant, tu lui parles, quelqu'un qui est plein de sentiments de culpabilité, qui a une image très abîmée de lui-même, tu lui dis, ben fais tchouva. Il dit, mais je ne peux pas, puisque je suis négatif. À quoi ça va servir ? En quoi ça va aider ? Ah, voilà, c'est la même chose. Alors regardez l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille pour en arriver là ? Le Rav Yaakovson, il est rentré dans cette histoire-là, il a été vérifié, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Parce que c'était ça faisait de la peine. Il dit, alors le profil de cette famille, c'est Dafka, justement, une famille de qualité. Une famille où il y a des valeurs, où il y a un degré éthique élevé. Oui. Et dans cette famille, il y avait quelque chose de très important au niveau du chinuch, c'est que Chotamo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. c'est que la notion de Emet, c'est au-dessus de tout. Bon, déjà, a priori, nous, on doit suivre le Seder Adifut de la Torah. On ne doit pas refaire des Seder Adifut nouveaux en fonction de nos inclinations personnelles. Ça veut dire, c'est l'ordre de priorité de la Torah qui doit nous guider. La hiérarchie des valeurs, c'est la Torah qui doit nous donner le code. Pas nous. Hein. C'est comme ceux, par exemple, ils ont mis le rangement tout en haut. Et ça peut être sur le compte de faire honte, malmener. Je sais pas moi, revérifie le code de référence, c'est la Torah. Où est-ce qu'elle a mis le rangement? C'est très important, mais où est-ce qu'elle l'a mis? Le Kvod Adam, elle l'a mis au-dessus, en dessous, revérifie. D'accord? Nous, toute notre vie, c'est ça qu'on fait. On revérifie si on est en adéquation avec la hiérarchie de priorité de la Torah. C'est ça, c'est ce qu'on fait. Ouais. Alors là-bas, en tout cas, ils en ont fait toute une histoire. Le Emet, c'est très important. C'est très important, le Emet, la notion de la vérité. Mais, tellement que c'était important chez eux, qu'ils ont décidé que sur ça, on met un point d'honneur. Et ça va être notre, on va dire, le centre de notre démarche éducative. Tout jusque-là, tout va très bien. Ben, comment ils y sont pris alors? Si c'est le centre de ta démarche éducative, tu fais comment, Tarles? Comment tu fais sur le terrain? Alors voilà comment c'était sur le terrain. Si c'est si important pour eux, ils ont décidé de ne jamais laisser en passer une. C'est-à-dire de traquer, de repérer tout ce qui pourrait ressembler à un mensonge. Et alors surtout, quand ça arrive, punir comme il faut et ne pas laisser passer. Repérer chaque fois l'enfant quand il ment. Et comment ça se traduisait? Dans son livre, il donne un peu plus de détails que dans la conférence. Il dit comme ça. Si un enfant il a été pris à mentir, il est ignoré toute la journée. D'accord? Il veut parler, maman, papa. Non, moi, je ne parle pas au menteur. Voilà, comme ça. Ou alors, il veut sortir un jeu ce jour-là. D'accord? Qu'il a été pris en... Qu'il a menti. En plus, mentir. Avec, pour un enfant, c'est complètement subjectif. Jusqu'à un certain... Dans les premières années, c'est même pas des vrais mensonges. C'est, il confond entre ses désirs et la réalité, comme on dit. D'accord? Il a certains souhaits. Il le veut tellement qu'il va te dire que c'est vrai. Ou quand il revient du Gan, j'ai fait ça, et c'est pas vrai. C'est pas grave. C'est parce qu'il le veut tellement que c'est, pour lui, c'est comme si qu'il l'a fait. Rien, aucun problème avec ça. Comme il a dit, Zeit Patrut Regila chez la Yelet. Ça fait partie du développement normal de l'enfant. Il n'y a pas besoin d'en faire une histoire. Ouais. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repéré chaque chose qui peut ressembler à un mensonge et ils ont puni sévèrement. Sévèrement, c'est pas du tout des coups ou quoi que ce soit de ce genre. Mais une attitude classée, une nidouille. Pratiquement excommuniée de la maison ce jour-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ils voulaient sortir un jeu. On lui dit, ah non, tu peux pas sortir ce jeu, parce qu'au menteur, on ne donne rien du tout. Voilà, c'était un petit peu la façon de faire, oui? C'était la façon de faire. C'est une vraie catastrophe. Donc, le Rav Yaakovson, il dit comme ça. De la façon standard, quand des parents, ils décident que quelque chose est très important pour eux, que c'est une valeur, une supra-valeur, c'est comme ça qu'ils vont faire. Ici, c'est présenté de façon caricaturale. Et la plupart des gens ne se reconnaîtront pas dans ça. Ils vont dire, ah, quand même, ils exagèrent, c'est incroyable. Mais juste en redescendant de proportion, oui, c'est naturellement comme ça que les parents ils vont faire. Quand c'est important pour eux, ils vont prendre l'enfant en défaut. Chaque fois qu'ils ne se conforment pas à cette même chose qui est pour nous très importante. Et il dit ça, c'est de l'anti-chinour. C'est de l'anti-chinour. Il dit, c'est la meilleure façon de fabriquer des menteurs. On a pris le mensonge, on va prendre d'autres exemples, oui. C'est la meilleure façon de fabriquer un menteur. Et alors, la question se pose, mais alors, comment on fabrique des gens droits qui disent la vérité? Si vraiment c'est très important pour nous et on veut avoir une démarche éducative dans ce sens-là, comment il fallait faire alors? Je vous demande, qu'est-ce que vous en dites? Prendre l'enfant sur le fait quand il dit la vérité. Quand il reconnaît la vérité. D'accord? Et dans ces cas-là, faire toute une paracha sur ça.
J'ai une question. Nous, ça nous est arrivé quelques fois ces derniers temps. On est dans 8 pièces, il y a quelque chose qui se passe, et on a les deux enfants, c'est obligé d'avoir seul un des deux enfants.
Alors?
On sait qu'il y en a, ils mentent, clairement.
C'est normal, c'est l'instinct de survie. Pourquoi les adultes, ils mentent pas un petit peu de temps en temps? Comme une, elle me disait en rigolant, et c'était presque vrai, elle disait, tu sais, quand tu t'es mal garé, et, un petit peu mal garé, t'as entendu, ping, tu te remets. Et le conducteur, mais vous m'avez connu. Ah bon, non, je... Menteur.
Non, évidemment, menteur.
Zenikrachushi Sadout, c'est l'instinct de survie qui se manifeste ici. C'est pas un mensonge prémédité et calculé, calculateur. D'accord ?
Donc on fait quoi ? On passe, on fait comme si rien n'était ?
Alors d'abord, il faut pas faire.
Pas les mettre dans la maison ?
Il faut pas faire trébucher l'enfant. C'est-à-dire, dire par exemple, qui a fait ça ?
Ouais, c'est trop gros.
Excuse-moi, tu as pris le chinour ou tu as pris l'élevage ? Juste explique-moi. Qui a fait ça ? Tu attends quoi ? Qu'il y en a un mouton qui va venir et dire c'est moi. Ah bah viens t'en prendre une maintenant. Tac ! Je suis désolée, mais ça veut dire réfléchissons à ce qu'on dit. Enfin non, on ne dit pas ça. Si vous ne dites pas ça. Mais il faut réfléchir 2 secondes à ce qu'on dit. C'est comme quand on dit, vous savez, on dit par exemple, enfin non, pas non, pardon. Il y a des gens, il y a des gens qui disent par exemple, mais ça fait 1000 fois que tu fais ça. Ouais? Ça fait 1000 fois que tu fais cette chose-là. Ou tu fais toujours ça, ou tu fais jamais ça. Ça, c'est la critique, elle a 3 copains. Toujours, jamais, pourquoi? Ouais? C'est des menteurs, des voleurs. Toujours, jamais, pourquoi? C'est jamais vrai. D'accord? Toujours jamais pourquoi. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? Juste réfléchissez 2 secondes au message subliminal qu'on est en train de dire maintenant. On est en train de dire, mais ça fait 1000 fois que tu fais comme ça, ou tu fais jamais ça, ou tu fais toujours ça. On est en train de dire, mon fils chéri, c'est tellement enraciné chez toi ce défaut que tu n'y arriveras jamais. Voilà, c'est machin à ton mérite, c'est ce qu'on dit exactement. Et après ça, il dit, il n'y arrive pas, je ne comprends pas pourquoi. Vous comprenez l'idée qu'il y a ici ? Voilà. Non, mais c'est pas drôle, mais il vaut mieux qu'on en rie pour corriger, oui. Ça veut dire qu'il faut se rendre compte de ce qu'il y a derrière les mots. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut dire ça alors ? Comment c'est possible qu'on dise ça alors ? Mais parce que ça, c'est pas le da'at qui décide ici, c'est les pulsions. Ouais. C'est pas la raison qui décide. C'est les trafims, les pulsions. Je suis énervée, je suis déçue, il m'énerve, il me frustre. Il n'est pas à la hauteur de ce que je veux. Et ce qui sort, c'est loin d'être une... C'est loin d'être une... Une pièce artistique éducative. Alors, pour répondre à votre question, pour répondre à la question, il faut bien rétablir le Emet. Oui ? Oui, mais il faut y aller avec Rochma. Y aller avec Rochma. Tu veux construire des individus qui vont dire la vérité, qui vont être droits, repère-les quand ils disent la vérité. Ça, c'est un chinour yéhoudi. C'est un chinour juif. Repère-les quand ils disent la vérité. C'est dur de reconnaître la vérité. Ben, quand il fait ça, fais toute une histoire. Kola kavod. Dover emetata. Tu es quelqu'un qui reconnaît la vérité. Extraordinaire. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de placarder sur ce qui s'appelle son image personnelle, Dover Emet. Mais quand l'enfant il est pris en défaut systématiquement sur cette même valeur qui t'est si chère, tu es en train de placarder sur lui, menteur. Vous comprenez l'idée ? Là, il faut y aller à l'antinaturel. C'est ce qu'on a dit beaucoup de fois. Il faut y aller à l'antinaturel, parce que le naturel, c'est ça qu'on fait. L'antinaturel, c'est réfléchi 2 secondes. Regarde, Rochevim. Utilise ce da'at, cette raison, cette pensée réfléchie. Pas les trafim, pas les pulsions. Les pulsions, elles éduquent pas les enfants. Elles les blessent. Alors, s'il a menti, c'est très bien que vous posez cette question. S'il a menti, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on a dit au tout début ? Voilà. Voilà. On va dire, mon fils, tu as menti. Vous êtes l'omatim lecha. L'omatim lecha. À ta dover emet, c'est l'omatim lecha. Ça ne te va pas à toi de mentir. Voilà. On porte sa remarque sur l'acte négatif, pas sur la personnalité. Pas sur la personne. Le vaker et amaase, le oded et aose. Mettez sur le frigo. Il faut tout reprendre à la. Ouais. Voilà. Il faut tout reprendre à la base. Alors. Quand je vous dis ici sur le mensonge, ça se étend sur toutes les valeurs possibles et imaginables. On est bien d'accord, ouais. Sur toutes les choses. On va voir quelque chose d'autre maintenant. Pour finir avec cette histoire-là, c'est que en s'y prenant de cette façon négative comme ils ont fait ces gens, qu'on ne juge pas, ils ont leur kélim, ils ont leurs outils, on ne juge pas. On regarde ce qu'on peut apprendre de ça. En voulant éduquer de cette façon-là, le parent, il voulait sensibiliser l'enfant à une certaine valeur, mais finalement, il en éloigne. D'accord ? Parce qu'en fait, il a encensé la valeur elle-même à son détriment à lui, l'enfant. Est-ce que vous avez compris l'erreur qu'il y a ici ? Tu veux que l'enfant, il intègre cette valeur ? Fais encense la valeur avec lui. Fais-le monter avec la valeur. Autrement, il est sacrifié sur l'autel des valeurs. N'est-ce pas ? C'était un moment d'inspiration, je t'abarre chez moi. Vous avez compris l'idée ? Alors, on continue. Birchutrem, Mbracha. Baruch, Atta Adonai. Elohim, Melech Haolam, Shehakol Nia Bidvaro. Est-ce que ça répond à votre question ? Donc, quand un enfant il a menti, on lui dit on ne doit pas mentir. Ce sont des directives, pas des reproches. Des directives. On ne doit pas mentir et de toi, Anilom Kabel, de toi, je ne reçois pas ça. Et voilà, et tu le construis. Tu le construis et tu l'aides à se corriger. Tu le construis, tu l'aides à se corriger. Tu le construis, voilà, c'est ça le processus. Enfin, tu le détruis pour le corriger. À quoi ça sert ? Il n'y a plus personne après. T'as corrigé, t'as tout corrigé, mais tellement corrigé qu'il n'y a plus personne. Machak Toto. Vous avez compris ? Comme je vous ai dit au début, c'est comme ça qu'on doit faire avec nous-mêmes, avec l'enfant pareil. Mais quand tu t'habitues à le faire avec toi, tu vas voir que tu vas le faire avec l'enfant aussi. C'est pour ça que je ne veux pas vous apprendre ça comme une technique artificielle et superficielle, apprendre comment il faut faire avec l'enfant et toi tu continues à te massacrer. Non, ça ne va pas aller. Il faut que tu apprennes toi-même cette gestion saine vis-à-vis de toi-même. Et quand tu vas faire ça, tu vas rayonner avec l'enfant, tu vas épancher cette même gestion saine avec l'enfant. C'est pour ça que le Ravi dit toujours, pour éduquer, il faut s'auto-éduquer d'abord. D'accord ? Pour répondre à une question qui a été posée la dernière fois, que parfois on peut avoir la sensation, que même si là on est en train de démonter un petit peu la notion de la critique, on peut avoir la sensation que des fois, une critique qu'on a reçue de quelqu'un, je précise, qu'on aime beaucoup, qui sent qu'il nous aime beaucoup, ça peut nous faire progresser. Je réponds oui. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a tout un cadre émotionnel qui est favorable. Je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, je sens qu'il est bienveillant vis-à-vis de moi, et surtout il a certainement la forme adéquate pour le dire. Il sait quand parler et comment parler. Quand parler, pas dans les moments où il est pris en défaut, comment parler avec respect. Dans des cas comme ça, oui. D'accord ? Mais comme la plupart du temps, dans le naturel, la critique intervient sur un terrain de tension, de déception, de frustration, d'exaspération. Je vous en fais encore deux autres, des rimes. Ouais. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Comme il avait dit dans un cours, il y a longtemps qu'on a fait ensemble, il disait « Pricat is cool ». C'est extériorisation de frustration, ce n'est pas constructif. Maintenant, si quelqu'un il a une maîtrise et une bienveillance, et il peut arriver à ce niveau, et surtout aussi que l'enfant il est assez construit pour recevoir, parce que c'est bien si toi tu es en bonne condition, mais si l'autre il est déjà ravagé, c'est pas, tu ne peux pas faire ça. Donc s'il y a toutes ces conditions, qui sont de nombreuses conditions, alors tu portes ta remarque sur l'acte et pas sur la personne, tu le fais d'une manière respectueuse et respectable, et avec amour et bienveillance, et l'autre aussi, il sait que tu l'aimes, il sait que tu es bienveillant. Ben oui, bien sûr que ça peut aider. Mais combien il faut de conditions pour rentrer dans ce criterionim, dans cette liste de critères. C'est compliqué, d'accord ? Donc, l'enfant, ici je veux repréciser cette chose importante, c'est que l'enfant, vous avez remarqué, il dit « je sais pas ». Tu mens beaucoup, il dit « je sais pas ». Pourquoi ? Parce que j'ai dit déjà, l'enfant n'a pas les outils, n'a pas d'échelle de soulam moussarit. Il n'a pas d'échelle de valeur quand il est petit. C'est ses parents qui lui fixent ce qui s'appelle important, pas important, peu important, etc. Il n'a pas du tout de notion d'éthique, l'enfant. Donc quand le parent il lui dit une certaine chose, l'enfant il l'accepte pour vrai. Dans les premières années, je ne parle pas à 14 et 15 ans déjà, là ils vous le disent. Ouais. Mais dans les premières années, l'enfant il accepte pour vrai ce qu'on lui dit. Ok ? Donc c'est pour ça qu'il faut faire avec beaucoup de précautions ça. On doit utiliser avec... C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir les éduquer. Mais il faut utiliser ça avec beaucoup de précautions. D'accord ? Maintenant, je vais vous parler d'un autre exemple sur la notion du vol. La même problématique avec la notion de vol. Un exemple que raconte le Rav et que je vais vous lire. Le Rav, il a dû récupérer un adolescent de 15 ans au poste de police pour vol. Petit vol. Accompagné de sa mère. Et sa mère, regardez ce qu'elle dit. Elle lui dit en pleurs. C'est une histoire un peu dure, je vous préviens. Mais Bezrat Hachem, on va sortir de ça les enseignements pour ne pas trébucher dans ce genre de problématiques. La mère, elle dit en pleurs. Je le savais. J'ai essayé d'alerter mon entourage, mais personne ne m'a cru, ne m'a prise au sérieux. Pourtant, depuis qu'il a 4 ans, je sentais déjà qu'il allait devenir un escroc. Le Rav pense en son fort intérieur. Il lui dit pas, mais il pense. Chère maman, tu ne le savais pas. Tu l'as créé de tes propres mains, ce phénomène. C'est une mise en place et non une prévision de cet avenir. Alors maintenant, on va rentrer dans quelque chose de délicat. Voilà le témoignage. Elle dit comme ça, j'ai prévu ce qui allait se produire. Alors qu'il était encore jeune garçon, je savais déjà qu'il était rusé et escroc. Depuis le début, je le savais, mais je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Même quand je discutais avec lui sur cette maudite tendance, le pauvre, qu'est-ce qu'il a dû entendre, même quand je le punissais à chaque fois qu'il nous trompait, donc il est pris en défaut systématiquement, en fait, Kitlug ve Parchanout, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On fonctionne avec Kitlug ve Parchanout. La mère, elle s'est convaincue qu'il est rusé, donc maintenant ses yeux, ils sont, on va dire, configuré comme une tête chercheuse, vous voyez, qui cherche maintenant toutes les configurations où ça, il y a quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à rusé. C'est inimaginable, d'accord? C'est pour ça que je vous dis, conditionnés nous sommes. Mais il vaut mieux se conditionner dans le bien, alors. Mon mari prétendait que j'exagérais, que je me faisais une montagne d'un élément insignifiant. Les pédagogues que je consultais rejetèrent mes paroles, les trouvant sans fondement. Personne autour de moi ne daigna m'écouter et personne ne me soutint, mais mon cœur, le cœur d'une mère, connaissait la vérité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Souvent, la maman, elle a des pressentiments comme ça et elle sent que l'enfant, c'est sa chair, il est sorti de sa chair, il y a une télépathie, il y a quelque chose, il y a une intuition maternelle. Le Rav, il a dit comme ça, il a dit, l'intuition maternelle, elle est bonne si elle projette des scénarios positifs. Sinon, c'est du Yetzerara. Ni plus, ni moins. Et je vais vous dire pourquoi. Pour une raison très simple. Encore une fois, je me prends référence à nos sources à nous. Il dit Nevoa Shora Rak Besimcha. La prophétie, dans nos textes, on voit qu'elle n'intervient que dans un état de joie. Les prophètes, regardez Elisha, Elisha Hanavi. À un certain moment, il n'arrivait pas à prophétiser. Il a dû emmener des instruments de musique. Vous connaissez bien sûr tout ça. Emmener des instruments de musique pour que je sois dans un état de joie et je pourrais prophétiser. Pourquoi? Parce que la joie, la simcha, c'est le chibour, c'est le lien à Kadosh Baruch Hu. Et sans la simcha, il n'y a pas de chibour, donc il ne s'établit pas la communication. Ouais. Donc le prophète ne peut prophétiser qu'en état de joie. Maintenant, nous, on n'est pas prophète, d'accord? Mais cela dit, ce principe, on peut l'exporter et le comprendre pour nos vies personnelles à nous. Si on a un principe comme ça, qui est presque un axiome, chez Nevoa Shora Rak Besimcha, que la prophétie, elle n'intervient que dans la joie, on va donc comprendre que les prémonitions négatives sont seulement des sollicitations du Yetzer Hara. Si une mère, elle imagine du bien pour cet enfant, elle projette du bien, Ashraïr, kol akavod lar, bravo, continue de faire comme ça. Mais si son sens maternel, elle a déjà décelé ceci et cela, elle doit comprendre qu'elle est en train de projeter ses propres peurs à elle sur cet enfant qui vient de commencer son parcours. Et tout ça, c'est pas bon. D'accord? Donc quand il y a une pensée négative, que ce soit pour là tout de suite, ou pour des scénarios à 2, 3, 5, 20 ans, il y en a qui projettent loin. Hein. Tu t'arrêtes tout de suite. Tu te reprends tout de suite. Et tu dis, moi, je veux pas faire alliance avec le Yetzer Hara.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.